aujourd'hui par rapport à l'histoire du théâtre? Où est-ce qu'elle en est, cette histoire du théâtre, aujourd'hui?
Voilà, c'est une question très compliquée parce qu'il faudrait répondre de plusieurs manières différentes. D'une certaine manière, tout ce qui concerne le théâtre, l'art du théâtre tel que nous le concevons en Occident, parce qu'on peut imaginer aussi des formes que nous ne connaissons pas, des formes inouïes à venir, bien sûr, et il y en a certainement. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Mais malgré tout, beaucoup de choses ont été épuisées déjà. Et que ce soit le naturalisme, que ce soit l'expressionnisme, que ce soit certaines formes futuristes, que ce soit des choses très formelles, des choses intérieures, enfin, peu importe, beaucoup de choses ont été épuisées. Les théoriciens du théâtre sont légion, les conscients et les inconscients. Les conscients, ce sont Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud et autres. Et les inconscients, ce sont des quantités de gens qui ne savent pas qu'ils ont parlé du théâtre, parce qu'on remplace simplement un mot dans leur texte et ça y est, ça marche pour le théâtre. Et dans ce cas-là, presque toute l'histoire de la philosophie sont des théoriciens de théâtre. Enfin. Mais, donc je crois que beaucoup de choses ont été épuisées. Alors, si on part de ce principe-là, on pourrait dire, eh bien, nous sommes dans une espèce de no man's land, de postmodernisme étrange. Voilà. Mais ce n'est pas vrai. Ni esthétiquement, ni politiquement, ou socialement, si j'ose dire. Par exemple, le théâtre populaire n'a pas dit son dernier mot, même si le concept tel qu'il a été forgé par les premiers décentralisateurs, Gignoux, Dasté, etc., et par Jean Villard, bien sûr, mais même ce concept-là, il est complètement caduque, il ne marche plus, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, ce serait presque. Le mot populaire pourrait presque être remplacé par commercial, et ça marcherait encore. Et c'est évidemment pas de ça qu'ils parlaient, eux. Mais le monde a changé. Le monde qui ne connaît pas le théâtre n'est plus une terre d'accueil pour le théâtre, contrairement à ce qui se passait à leur époque. Il y a eu une grande exposition de photos du public de Jean Dasté, par exemple. Jean Dasté qui a travaillé dans les environs de Saint-Étienne et qui était un grand homme de théâtre. Et le public était magnifique. Ces photos sont sublimes, elles sont très émouvantes. On voit des gens avec le béret basque sur le côté, des dames qui tiennent leur bébé ou qui sont en train de l'allaiter, et puis qui regardent, je ne sais quoi, les fourberies de Scapin, je ne sais pas quoi, avec des étoiles dans les yeux, et trouvent ça sublime, et on leur a apporté enfin la culture, la beauté, l'intelligence, le talent, etc. Aujourd'hui, ce qui correspondrait à ce public, c'est le public des banlieues. Le public des banlieues, il dira plutôt « Vas-y, casse-toi de mon territoire enfin, !» et ça ne les intéresserait plus. Donc c'est un autre monde, si vous voulez. Mais, et donc, même politiquement, ce concept n'est plus valable. Esthétiquement, n'en parlons pas, etc., etc. Donc, je crois qu'on pourrait dire que les choses ont changé, que maintenant, c'est un peu n'importe où. Il y a la mondanité qui se mêle à ça. La mondanité, pas forcément des hautes classes sociales. Non, la mondanité tout court, la mondanité des gens de théâtre qui disent « j'adore, je déteste », enfin, ou bien qui... enfin, bon, voilà, mondanité. Qui transforme tel festival bien connu en une collection d'événementiels d'entreprise et non pas de vraies recherches. L'avant-garde n'a plus de sens aujourd'hui. L'avant-garde, ça veut dire forme reconnaissable, ciblée, comme disent les commerçants, ciblée avant-garde. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je peux vous faire demain un spectacle dit d'avant-garde pour le Festival d'Avignon. Je vous mets un peu de nudité, un peu de sang, un peu de vidéo, et je vous assure que je vous fais un spectacle d'avant-garde. Mais c'est une avant-garde qui n'est pas une avant-garde, par définition. C'est une avant-garde déjà bien circonscrite et reconnaissable. Et la petite bourgeoisie qui va au théâtre, qui d'ailleurs est très, très ciblée elle aussi. Ce sont les profs, ce sont les élèves obligés, les pauvres, et puis quelques gens de théâtre. Voilà, grosso modo. Et de temps en temps, une profession libérale perdue au milieu. Enfin, voilà. Je crois que là aussi tout ça est faussé. Mais il peut exister, et j'ai la faiblesse de penser qu'il faut croire que ça existe encore, des aventures singulières. Ariane Mnouchkine est une aventure singulière. J'ai la faiblesse encore plus de penser que je suis une aventure singulière. Il y en a quelques autres, heureusement. Et donc, qu'il y en a qui n'en rabattent pas là-dessus et qui continuent à travailler sur les signifiants, à travailler sur les textes, à travailler sur le rapport au corps, à travailler sur le temps, et que une société a besoin de ces choses-là, non pas directement, mais de manière élitiste pour tous, comme dit Antoine Vitesse, c'est-à-dire en s'adressant à quelques personnes qui seraient capables de l'entendre, elles-mêmes qui, à leur manière, rayonnent et s'adressent à d'autres, qui s'adressent à d'autres, qui s'adressent à d'autres. Mais, comme vous le savez, le public d'une salle de spectacle n'est pas le public à qui on s'adresse. Moi, je m'adresse à la terre entière quand je monte un spectacle. Et dans la salle, il va y avoir 300 personnes ou 500 personnes, ou allez, 2000, dans le meilleur des cas. Mais Mais donc, ce n'est pas la Terre entière, c'est un tout petit morceau de la Terre. Sauf que ce petit morceau de la Terre, c'est le peuple élu, c'est-à-dire c'est les délégués, c'est les députés de l'autre partie, l'immense partie qui n'est pas là. Et je crois donc qu'il y a encore un travail de véritable recherche, de véritable écart, de véritable combat idéologique, combat philosophique, combat des formes, combat de la pensée, donc politique, à faire. Voilà, alors je m'inscris dans cette mouvance-là, maintenant, à tort ou à raison, et on peut entendre ou ne pas entendre, le croire ou ne pas le croire, c'est un autre problème.
Mais dire cela, c'est aussi oublier les centaines de compagnies et de troupes qui essayent d'aller à la rencontre du public, se déplacent dans les banlieues.
Ce n'est pas les oublier. Vous savez, on appelle théâtre une chose qui est trop large. Par exemple, si on parle de musique, vous allez me dire tout de suite, mais de quelle musique parle-t-on ? De la musique de recherche, je ne sais pas, Boulez, enfin la musique contemporaine savante, au contraire, enfin, même s'il y a plus contemporain savant que Boulez encore, mais enfin bon, prenons-le comme exemple. De Boulez, on parle de Enrico Macias, qui fait de la musique aussi, on parle de Mozart, enfin de quoi parle-t-on ? De jazz, de rock, de musique électroacoustique ou de musique techno, enfin voilà. Et on va vite dire, c'est pas la même chose, enfin on ne parle pas de la même chose. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, dans tel ou tel journal, il y a des gens qui sont spécialistes de la musique techno et ceux-là, ils n'ont rien à dire sur Mozart. Au théâtre, non. Au théâtre, on mélange tout et on dit que c'est le théâtre. Alors les compagnies dont vous parlez sont, pour la plupart, ça dépend lesquelles, quand on dit les compagnies, c'est trop large. Il y a telle compagnie n'est pas du tout dans la même mouvance que telle autre compagnie. Mais grosso modo, la majorité de ces compagnies sont des compagnies qui travaillent directement avec un public, comme on dit, de proximité. C'est-à-dire, c'est comme si on disait c'est de la chanson. Mais il peut exister aussi de la symphonie, il peut exister aussi de l'opéra, il peut exister, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Et il ne faut pas tout confondre et tout mélanger.
En ayant aujourd'hui toutes ces casquettes de directeur, de metteur en scène, de comédien et de directeur de troupe aussi, vous considérez-vous comme porte-parole d'un genre de théâtre?
Oui. Enfin, porte-parole, non, le mot porte-parole n'est pas juste, mais je pense qu'il y a une parole, oui, qui se dit sur le théâtre, qui est minoritaire. Mm-hmm. Vous savez, ce qui trompe, je le vois avec mes élèves. Au début de ma classe, au début de l'année, les nouveaux élèves arrivent et ils sont dans la classe du directeur. Donc ils pensent que tout ce que je vais dire, c'est la doxa, c'est la loi. Puisque c'est moi qui dis les lois, et je suis le directeur, et je leur dis maintenant des choses concernant le jeu, le théâtre. Et puis, assez vite, ils finissent par se rendre compte que je ne suis pas un directeur qui, d'autre part, est professeur. Ce professeur, d'ailleurs, d'autre part, faisant de temps en temps de la mise en scène, ou jouant, mais que je suis un metteur en scène et un acteur qui fait le professeur, et ce professeur a accepté d'être le directeur pendant un temps. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte très vite que je suis avant tout un homme de théâtre et non pas la loi qui parle. Et au bout d'un moment, ils comprennent, je crois, enfin, il faudrait les interroger eux-mêmes bien sûr, mais je suis à peu près sûr de ce que je dis, ils comprennent que ce qu'ils entendent dans ma classe est minoritaire, même au sein du conservatoire. D'une part, je suis le directeur de l'infrastructure du conservatoire, et ce n'est pas rien, c'est teinté d'idéologie, c'est teinté de combat politique, hein. Ce n'est pas juste de l'administration, loin de là. C'est vraiment un combat politique de tous les jours. Mais d'autre part, ce que je dis en théâtre est minoritaire. Et ils le savent bien. Maintenant, ils le savent bien. À cette période de l'année où nous parlons, ils le savent.